Bon, bonjour. Merci d'être venu pour cette rencontre avec Nicolas Jounin autour de son livre Chantier interdit au public. Moi, je suis de la CNT, plus précisément du Syndicat unique du bâtiment, donc qui est une organisation syndicale qui refuse le, on va dire, toute forme de corporatisme, qui n'a pas de permanent, qui est sur un mode autogéré, c'est-à-dire finalement les décisions se font de manière collective. Voilà, pour poser un peu les bases de notre base un peu philosophique de notre organisation. C'est un syndicat qui est de création récente, hein, et qui a eu dans sa courte histoire eu d'ailleurs l'occasion de travailler avec des sans-papiers. Notamment pour les régulariser, voilà. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs évident. Voilà. Et donc, on a voulu inviter Nicolas Jounin pour son livre, parce que c'est vrai que c'est un livre, moi quand je l'avais lu, donc ça remonte quand même à 2 ans, hein, pour être honnête, c'est un livre, moi, qui m'avait marqué par le côté assez concret de ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pas un ouvrage théorique. C'est pas un ouvrage de sociologie universitaire au sens classique du terme. C'est vraiment, je dirais presque, alors peut-être que toi tu préciseras les choses, mais c'est vraiment un récit concret de l'expérience que tu as menée, l'expérience en tout cas de l'enquête que tu as menée parmi les travailleurs du bâtiment. On ressent vraiment les choses du point de vue des relations que tu as avec les gens, du point de vue aussi de ce que tu vis dans ton corps, hein, quelque part aussi. Voilà, donc tout ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis aussi l'aspect que tu mets bien en évidence sur les discriminations dans ces chantiers-là, c'est vraiment quelque chose d'assez marquant dans ce livre, quoi. Vraiment très. Donc j'ai été assez sensible là-dessus. Voilà, donc du coup, je vais pas parler plus longtemps parce que je pense que j'ai assez mobilisé la parole. Et donc je te laisse
Ok.
parler de ton livre.
Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ce que je vous propose, du nom qu'on a, c'est que fin, dès que je dis un truc pas clair, vous m'arrêtez. Enfin, ou si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous m'arrêtez, vous me demandez, ou un commentaire, ou une protestation scandalisée. Bon, moi, c'est pire que toi, ça fait bien 3-4 ans que je l'ai pas lu ce bouquin, mais j'ai 2-3 souvenirs quand même. Alors, je vais faire une intervention qui forcément va être un petit peu plus décharnée que ce qu'il y a dans le livre. Enfin, je vais un peu moins développer sur les personnes que j'ai pu rencontrer. Il y aura un peu moins de corps dans les personnages parce que je vais essayer en quoi 3 quarts d'heure de dégager quelques logiques d'ensemble d'organisation du travail dans le secteur du bâtiment à cette époque et en région parisienne. Mais donc effectivement, c'est une enquête qui a été menée principalement entre 2001 et 2004, pour la partie en tout cas observation des chantiers. Et entre 2001 et 2004, j'ai donc passé 9 mois sur des chantiers comme stagiaire ou intérimaire, coffreur, manœuvre ou ferrailleur, enfin aide-coffreur, ferrailleur ou manœuvre. Et à quoi s'ajoutent 3 mois en lycée professionnel de formation, mais là j'en parlerai pas ici. Et puis s'ajoute à ça plus classiquement une cinquantaine, une soixantaine d'entretiens avec des travailleurs du bâtiment, principalement des travailleurs de l'intérim, des chefs d'entreprise, des commerciaux d'intérim, donc ceux qui achètent la force de travail des ouvriers du bâtiment et les revendent à des entreprises, des responsables de ressources humaines des grandes entreprises, et je pense que des médecins du travail, et je pense que j'ai fait le tour. Et donc, ce que je vais essayer là, je vais essayer de. Bon, je peux pas tout dire de ce qu'il y a dans ce livre. Ce que je vais essayer de développer ici, c'est 3 points différents, plus un qui n'est pas dans ce livre. Le premier point, c'est la question de la sécurité sur les chantiers. Non pas d'un point de vue de technicien de la sécurité, puisque en la matière, même après quelques mois d'expérience, je suis toujours incompétent, mais d'un point de vue de sociologue, donc qui essaye de décrire des rapports de force, qui essaye de montrer autour de l'enjeu de la sécurité comment se construisent des hiérarchies, comment se construisent des décalages entre ce qui est prescrit et ce qui se passe en réalité, entre des discours officiels et des discours clandestins. Et c'est une question, celle de la sécurité, qui a été beaucoup technicisée au cours des y passer. Il y a tout un tas de gens qui sont des professionnels, des techniciens de la sécurité, mais qui reste une question éminemment politique, puisque c'est celle de leur protection, enfin de la protection de leur intégrité physique par les salariés, alors même qu'ils ont remis leur liberté à un patron pendant un temps déterminé. C'est le cadre du salariat. Ça, c'est le premier point que je vais essayer d'aborder. Le deuxième point, c'est celui de ce que j'ai pu appeler dans le livre l'ethnicisation de la main-d'œuvre, le fait qu'à certains métiers correspondent certaines origines. Donc essayer de décrire, d'expliquer simplement comment on arrive à ce résultat, sans forcément, je ne vais pas développer ici, si vous voulez en savoir plus là-dessus, ce sera peut-être dans la discussion ou en lisant dans le livre, sans développer la manière dont, du coup, les identités ethniques peuvent être rejouées, subverties, contournées, suivant les situations, par les ouvriers en situation dans le chantier. Ça, j'en parlerai pas trop, j'essaierai vraiment plus d'essayer de montrer par quel mécanisme on arrive à ce phénomène de, à certains métiers, à certaines hiérarchies, certaines qualifications, on va retrouver plutôt certaines origines. Et ces deux sujets, aussi bien la question de la sécurité que celle de l'ethnicisation de la main-d'œuvre, vont au final pointer vers un troisième qui est celui de manière générale de l'organisation du travail sur les chantiers, de l'organisation productive, organisation à la fois matérielle, comment on s'y prend pour construire des bâtiments, et juridique. Quels sont les rapports juridiques qu'on instaure entre les personnes qui construisent des bâtiments. Et donc je vais parler en particulier de la sous-traitance qui est hégémonique et de l'intérim qui l'est tout autant. Et le dernier point, c'est un point un petit peu d'ouverture qui renvoie à une autre enquête que j'ai faite plus tard et que j'ai pas faite seule, que j'ai fait avec quatre autres personnes, qui a donné lieu à un livre là, qui est présenté aussi là-bas, sur les grèves de travailleurs sans papier, sur les grèves massives de travailleurs sans papier qui ont eu lieu entre 2008 et 2010 en région parisienne quasi exclusivement à notre connaissance. Peut-être vous me démentirez. Et je mettrai plus l'accent sur les grèves de travailleurs du bâtiment, qui de fait sont principalement des grèves d'intérimaires du bâtiment. Donc j'essaierai de montrer tout ce que le statut intérimaire pose comme problème à l'organisation d'une grève et à l'organisation d'occupation. Et en même temps, tout ce que cette grève, tout à fait inédite de ce point de vue-là, puisque avec ou sans papier, c'est la première fois qu'il y a des milliers d'intérimaires qui se mettent en grève et qui décident d'occuper leurs entreprises, et quelles brèches ça a pu ouvrir, y compris des brèches juridiques. Voilà, je vais essayer de ne pas trop dépasser sur ces points-là. Juste avant d'entrer dans le premier point sur la sécurité, je voulais juste souligner donc que la méthode principale de l'enquête sur les chantiers, ça a été ce qu'on appelle en sociologie de l'observation participante, donc le fait d'aller observer en participant. Observer pour mieux comprendre le déroulé du travail, pour mieux voir ce qui se passe, pour mieux voir les relations entre les gens au quotidien, sans passer par le filtre forcément d'interviewer des gens, on va voir directement ce qui se passe. Et puis en participant, parce que il est très difficile de négocier une place sur les chantiers autre qui ne soit pas celle d'un participant ou qui soit libéré de rapports de pouvoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur un chantier bien habillé avec un carnet de notes, il va plutôt passer pour un chef, pour un contrôleur lointain de la sécurité ou je ne sais quoi, mais il va pas forcément inspirer une confiance immédiate, même si j'ai pas toujours inspiré une confiance immédiate, on pourra en discuter. Et la deuxième chose, c'est que le parti pris de l'enquête, c'était... non pas contrairement à ce qui se fait beaucoup en sociologie du travail, bon de moins en moins maintenant, mais ce qui se faisait beaucoup en sociologie du travail, c'était d'étudier une entreprise et de regarder l'organisation du travail à l'intérieur d'une entreprise, le développement de la sous-traitance, le développement de l'intérim, le développement de tout ce qui est employeur intermédiaire rend cette délimitation, le fait de circonscrire les enquêtes à l'échelle de l'intérim un petit peu caduque, un petit peu dommage par rapport à ce qui se passe en réalité. Donc moi, le choix, ça a été d'étudier des chantiers et non pas des entreprises. Donc le chantier, éventuellement, il est dirigé par Bouygues. Bouygues a obtenu le marché, dirige le chantier, a un certain nombre de sous-traitants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble de l'organisation du travail sur le chantier et pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de Bouygues, mais bien l'ensemble des interactions dans la production d'un même produit qu'est le bâtiment, l'ensemble des interactions qui conduisent à la production de ce bâtiment avec l'ensemble des acteurs qui y participent, depuis un travailleur intérimaire sans papier jusqu'au cadre de Bouygues. Alors, à ce propos, commençons par la sécurité. En commençant par Ce qu'on peut observer, donc j'ai précisé les limites de l'enquête, hein, c'est le début des années 2000 dans les chantiers de grosses œuvres du bâtiment de région parisienne, donc c'est pas forcément partout pareil. Après, à force d'avoir aussi un petit peu tourné et discuté, il est vraisemblable qu'il y a des logiques similaires ailleurs. Mais ce qu'on observe en matière de sécurité, c'est d'abord que les gens prennent des risques. Et que, ils prennent des risques, qui les ouvriers des chantiers, qui les amènent à transgresser les règles officielles de sécurité. Ils prennent des risques parce qu'il y a une contradiction assez évidente qui peut être dite par n'importe qui sur les chantiers entre des consignes de sécurité d'un côté et de l'autre des exigences de cadence qui font que ce n'est pas possible de tenir les exigences de cadence en même temps qu'on respecte les consignes de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe assez vite quand on travaille sur les chantiers. Ce qu'on observe aussi, c'est que si on manifeste un petit peu trop, enfin trop, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si on manifeste une attention certaine aux consignes de sécurité, si on essaye de mettre tout le temps des bouchons dans les oreilles au moment où on utilise le marteau-piqueur, de mettre tout le temps des lunettes sur les yeux quand il faut, de mettre tous les garde-corps nécessaires à tous les moments, on va nécessairement s'attirer des remarques, des chefs bien sûr, mais aussi éventuellement, le cas échéant, des collègues. Et ce que je viens de dire sur le fait qu'on est amené à transgresser les règles de sécurité est d'autant plus vrai qu'on est dans une position dominée sur le chantier, c'est-à-dire qu'on est principalement sous-traitant ou intérimaire, puisque là s'ajoute un manque de moyens encore plus important pour travailler dans les entreprises sous-traitantes ou pour l'intérimaire, et une précarité de l'emploi qui va pousser davantage à faire plaisir à l'employeur et donc, le cas échéant, à ne pas respecter les règles de sécurité. Donc ça, bon, c'était à peu près attendu et c'est assez facile à entendre. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que ce qu'on observe aussi sur les chantiers, c'est que donc les ouvriers prennent des risques, ne respectent pas les règles de sécurité parce qu'ils ne peuvent pas, et qu'en même temps, ils se cachent du fait qu'ils prennent des risques vis-à-vis des cadres, qui sont pourtant ceux qui posent des exigences de cadence qui amènent à transgresser les règles de sécurité. Alors le discours des cadres, le discours des conducteurs de travaux sur la sécurité, si vous les interviewez, enfin oui c'est ça que j'ai oublié de dire, j'ai aussi interviewé des conducteurs de travaux, ça va être plutôt du genre, bah nous notre boulot c'est de faire rentrer les règles de sécurité dans la tête des ouvriers, et c'est très 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 long, hein, forcément, ça finit par rentrer, mais on est toujours à le redire, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas, qu'ils nous écoutent pas, et donc voilà, bon c'est cette posture du maître d'école en permanence vis-à-vis de ses élèves, à qui il faut en permanence redire. Parce que soit ils sont inconséquents, irresponsables, ils n'écoutent pas, etc. Bon, mon expérience était un petit peu autre. Je vais donner un seul exemple. Arrivant sur un chantier Bouygues, on met avec un ouvrier qui avait à peu près mon âge, mais beaucoup plus d'expérience, qui donc était coffreur, qui travaillait à ce moment-là sur le chantier à décoffrer des planchers, donc il venait d'être coffré pour mettre le béton des planchers. Donc on décoffrait les planchers en enlevant les étais métallique. Donc, on décoffre un premier plancher et il me dit, voilà, les étais métalliques, une fois que tu les as enlevés, donc c'est des lourdes, assez lourd, si ça tombe, ça peut faire mal, il faut les poser allongés par terre parce que c'est comme ça la sécurité. Si on les met contre le mur, après, ça risque de glisser, de tomber sur quelqu'un. Bref. Donc, il m'explique comment travailler dans la sécurité. On décoffre immédiatement après un deuxième chantier et là, il le met debout contre le mur en me disant, je t'ai montré comment on travaille en sécurité, maintenant je te montre comment on travaille pour respecter la cadence. Donc, les règles rentrent suffisamment dans la tête des ouvriers, les règles de sécurité, pour qu'ils aient conscience de les enfreindre. Donc, on ne respecte pas les règles de sécurité, on le sait très bien, et on se cache du fait qu'on ne respecte pas les règles de sécurité, parce que les cadres sont en même temps, malgré tout, les gardiens officiels de la sécurité, les détenteurs du monopole de la gestion de la sécurité. Et donc face à eux, les ouvriers sont toujours en position de coupables qui ne respectent pas les règles de sécurité. Et donc, bien qu'ils soient contraints par le fait qu'il faut respecter les exigences de cadence, lorsqu'ils ne respectent pas les règles de sécurité, ils se cachent des cadres. Le cas échéant aussi, ils ne respectent pas les règles de sécurité parce qu'ils mettent en place des manières de travailler alternatives, considérant que c'est plus agréable pour eux. Je donne un autre exemple avec le même ouvrier en l'occurrence. Bouygues venait d'avoir inventé des nouveaux étais qui avaient un hydraulique qui descendait, qui coulissait plus doucement et qui effectivement sont sans doute moins dangereux. Enfin, on se pince moins les doigts, des choses comme ça au moment où ça redescend. Donc quand on desserre les étais donc fixent enfin, permettent de tenir le coffrage, on coule le béton par-dessus, puis après on enlève les étais. Donc il y a tout le poids du béton sur l'étai, donc au moment où il faut desserrer l'étai pour l'enlever, c'est assez difficile. La méthode habituelle, c'est de taper sur de taper comme des sourds sur je vais y arriver, sur là où ça la poulie, merci, de taper comme des sourds dessus avec le marteau, et puis après de finir en desserrant, en faisant levier avec le marteau. En l'occurrence, une série de cadres sont arrivés pendant qu'on travaillait pour regarder, pour admirer le nouvel objet de Bouygues. Et sans qu'on ait à se concerter, même moi qui n'avais pas tellement d'expérience, la première chose qu'on fait, c'est plutôt que de taper dessus, là, on dessert en faisant levier. Alors on se fait mal au dos, parce que c'est encore une fois, la pression est lourde. Moyennant quoi, on obtient les félicitations du directeur du matériel qui vient nous dire: c'est très bien, vous respectez vos oreilles et vous respectez le matériel, vous pensez à votre sécurité, bravo, bravo. Et puis bon, une fois qu'ils sont partis, évidemment, on recommence à taper comme des sourds parce que c'est un arbitrage entre le dos et les oreilles. Et en l'occurrence, l'arbitrage commun, c'est en faveur du dos et peut-être contre les oreilles et contre le matériel. Donc ce qu'on observe sur les chantiers, ce qui explique cette situation où on se trouve à prendre des risques et en même temps cacher qu'on prend des risques, c'est on pourrait dire une taylorisation de la sécurité. Alors là, c'est une expression qui n'est pas de moi, qui est de Pierre Trinquet, qui est un sociologue qui avait travaillé sur les risques du travail dans le secteur du bâtiment aussi, et j'aimais beaucoup sa formule et l'analyse qui est derrière. Taylorisation, donc ça reprend l'idée de taylorisme, donc une forme d'organisation du travail qui donc a d'une part une division horizontale des tâches où on parcellise les tâches, et d'autre part, et c'est la dimension qui est importante ici, une division verticale où il y a ceux qui conçoivent comment on doit travailler et ceux qui exécutent et qui ne doivent uniquement que exécuter ce qui a été conçu par ceux qui savent et conçoivent. Or, donc là, on a effectivement une taylorisation de la sécurité, c'est-à-dire que ceux qui conçoivent les règles de sécurité ne sont pas ceux qui les exécutent, mais aussi ceux qui conçoivent les règles de sécurité ne sont pas ceux qui sont supposés en bénéficier. Et par ailleurs, dernière contradiction, ceux qui conçoivent les règles de sécurité sont ceux qui également portent les exigences de cadence. Alors, il y a toujours une espèce de sémantique ambiguë qui va amener à dire que tout le monde est responsable de la sécurité sur un chantier, en jouant sur le caractère très vague et avec plein de sens à l'intérieur du mot responsabilité. La responsabilité est davantage de l'ordre du pouvoir du côté des cadres. Ils ont le pouvoir de dire les règles de sécurité, de sanctionner ceux qui ne les auraient pas respectées. Et là, la responsabilité du côté des ouvriers serait plutôt de l'ordre de la culpabilité, c'est-à-dire que ce sont toujours ceux dont on soupçonne qu'ils n'ont pas respecté les règles de sécurité. Et effectivement, dès lors qu'il y a un accident, on va ordinairement mener une enquête si l'accident est un peu grave ou impossible à déguiser. On va mener une enquête et on va s'apercevoir qu'au final, c'est un exécutant qui n'a pas placé l'étai comme il fallait, qui n'a pas placé les éléments comme il fallait, qui n'a pas serré comme il fallait, ce que vous voulez. Et effectivement, par définition, ce ne sera jamais un conducteur de travaux qui aura mal placé l'élément qui finalement a causé un accident. Et donc cette mise en accusation ponctuelle, individuelle, à chaque fois qu'il y a un accident, on fait une enquête et puis on met en accusation l'ouvrier qui a mal fait, permet de passer complètement sous silence l'organisation générale de ces gestes, des gestes des exécutants et du contexte dans lequel ils travaillent et éventuellement au bout d'un moment ont commis une erreur. Un dernier élément assez frappant qu'on observe quand on s'intéresse à la question de la sécurité sur les chantiers, c'est quand il y a un inspecteur qui passe. Soit c'est un inspecteur de l'OPP-BTP, l'Office de prévention professionnelle du BTP, enfin l'Office de prévention des risques du BTP, qui est un organisme paritaire, ou l'inspection du travail, ou un coordinateur de sécurité de l'entreprise générale qui tient le chantier, de Bouygues, de Vinci ou autre. Dès lors qu'il passe, là, c'est la parodie de travail. C'est branle-bas de combat, c'est les chefs qui passent un peu partout pour dire: attention, il arrive, travaillez correctement. Moi, ordinairement, j'ai découvert des règles de sécurité à cette occasion. région-là. C'est là qu'on me dit, alors attention, il faut faire ça. Et là, je découvrais les trucs qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Donc, évidemment, ça n'élimine pas toute trace de réalité. Il ne faut pas prendre non plus les inspecteurs pour des buses et croire qu'ils devinent pas complètement, ils devinent pas un peu ce qui se passe derrière. Mais il reste qu'il y a une parodie de travail, il y a une productivité qui est franchement ralentie parce que il faut faire semblant devant les inspecteurs. Et dans cette parodie de travail, dans ce branle-bas de combat, il y a une espèce d'union sacrée entre les cadres et entre la direction de chantier et les ouvriers du chantier. Au sens où là, tout le monde va faire semblant. À peu près tout le monde va faire semblant. Les ouvriers, parce qu'ils ont peur des représailles. Les ouvriers, pourquoi les ouvriers font semblant? Ça peut être parce qu'ils ont peur des représailles après coup, s'ils ne font pas semblant, effectivement. Et évidemment, ça peut arriver. Mais aussi, ils le font parce qu'ils ne pensent pas que ces diverses inspections vont changer quoi que ce soit ou qu'elles sont légitimes. Alors là, les différentes choses qui peuvent se dire à ce propos-là, c'est que les inspecteurs en question, ils ne connaissent pas le métier puisqu'ils ne l'exercent pas. Donc là, il y a une espèce du retournement du stigmate de l'exécutant. Moi, je suis exécutant, je sais ce que je fais. C'est pas un inspecteur qui a jamais bossé dans le bâtiment qui va me dire quoi faire. Soit parce qu'on anticipe, et ça peut arriver, que ces inspections vont déboucher vont se traduire par des recommandations, par des injonctions à la direction de chantier de faire des choses supplémentaires pour la sécurité, qui soit vont rester lettre morte, et de toute façon c'est inutile, soit vont amener un surcroît de consignes, un surcroît de... alors que les conditions de travail, de manière générale, n'auront pas changé. On n'aura pas plus de temps, on n'aura pas plus de délai, mais on aura à nouveau un surcroît de consignes, qu'éventuellement on ne va pas non plus respecter, qui vont nous tomber dessus. Donc les représentants de l'État ne sont pas vus non plus comme des sauveurs par les ouvriers, parce que même si ces inspecteurs ont le sentiment et ont pour mission de protéger et peuvent effectivement améliorer la sécurité sur les chantiers, malgré tout, du point de vue des ouvriers, ils restent assujettis à ces inspecteurs de la même manière qu'ils restent assujettis à la direction de chantier dans la définition des règles. Alors pour finir sur ce point de la sécurité, je vais essayer de montrer ce qui se passe quand les ouvriers essayent de gérer par et pour eux-mêmes leur propre sécurité, de commencer à tenter une reprise en donnant, enfin une reprise de la maîtrise de leur sécurité, en donnant un exemple qui est la seule grève que j'ai vue, enfin qui n'est même plus vraiment une grève du coup, la seule grève que j'ai vue en 9 mois de chantier, c'était à peu près ce temps-là. Enfin, les premiers jours de la semaine, il a neigé. Alors le lundi, comme il a commencé à neiger que vers 11h, 11h30, on a travaillé tout le reste de la journée sous la neige parce que les cadres ne voulaient pas arrêter le travail et mettre la journée en intempéries alors qu'on avait commencé à travailler. Mardi, mercredi, jeudi, il neige tous les jours sans s'arrêter. Donc à chaque fois, on vient le matin et puis on repart vers 9h parce que la journée est déclarée en intempéries. Et puis le vendredi, il fait pour le coup ce temps-là, c'est-à-dire qu'il fait très beau, mais en dessous de zéro, donc la neige tombée les jours précédents est toujours là. Et là, il y a une espèce de polémique qui s'engage entre la direction de chantier et les ouvriers sur le temps qu'il fait. Pour la direction de chantier, il fait beau, puisqu'il y a du soleil et qu'il y a du ciel bleu. Pour les ouvriers, il fait pas si beau que ça, puisqu'il fait moins que zéro et que le chantier est complètement verglacé, qu'il y a de la neige partout. Et donc, voilà, les ouvriers refusent de travailler, en tout cas une partie des ouvriers refusent de travailler, et la direction dit si, il faut faire travailler. Donc il y a une espèce de bras de fer qui se joue pendant une heure et demie, avant que une partie des ouvriers décide de quitter le chantier et menace que si la journée n'est pas déclarée en intempéries, à ce moment-là, le lundi suivant, ils se mettront en grève. Avec. À ce moment-là, le chef de service qui s'énerve, qui menace de supprimer les primes, enfin le directeur de chantier, pardon, qui menace de supprimer les primes, et qui dit, et je pense que cette phrase est très révélatrice, au moment où un délégué du personnel lui dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre sécurité, c'est pas les profits de, en l'occurrence, c'était GTM, c'est pas les profits de GTM, le chef de chantier dit, alors, la première fois dit, arrêtez, je suis le premier concerné par la sécurité. Je suis le premier, donc toujours cette revendication de monopole du gestion de la sécurité. Puis la deuxième fois, c'était un peu moins poli, c'était vous commencez à me faire chier avec la sécurité. Bon, on voit la contradiction incarnée dans un seul homme, directeur de chantier. Alors, finalement, le lundi, la journée a été déclarée en intempéries, donc le lundi, le travail reprend normalement. Ce que j'ai pas complètement dit sur cette histoire, c'est ce qui joue entre les ouvriers de l'entreprise générale, les intérimaires et les sous-traitants au moment où on dit il faut se mettre en grève, organiser un rapport de force pour imposer le fait que la journée doit être déclarée en intempérie. En réalité, le mouvement a été mené exclusivement par des ouvriers embauchés de l'entreprise générale, donc les ouvriers de GTM qui ont le bleu de travail, le vert en l'occurrence, de GTM, et quelques intérimaires qualifiés, donc en l'occurrence des coffreurs de GTM. Tout ce qui est sous-traitant, sous-traitant en ferraillage notamment, tout ce qui est intérimaire peu qualifié, donc des manœuvres, et puis aussi là encore des ferrailleurs, sont restés en retrait. Sont restés en retrait, soit en se disant ils ont raison, il faut qu'ils gagnent, mais nous, vu notre situation, on ne peut pas rentrer dans la bataille, donc on attend de voir l'issue du combat en souhaitant que la journée soit déclarée en intempérie, soit en disant plutôt ça, c'est l'affaire des ouvriers de GTM, nous, de toute façon, on va être niqués. Il y avait un peu les deux discours. Voilà. Et donc, au final, moi j'étais dans l'équipe à ce moment-là de sous-traitance en ferraillage. Une fois que les ouvriers de GTM sont partis, j'ai oublié de dire que du côté des ouvriers de GTM qui s'étaient réunis dans une espèce d'assemblée générale dans les vestiaires, la question était aussi évoquée. Qu'est-ce qu'on fait des intérimaires, notamment des intérimaires qui voudraient. Enfin, d'abord, qu'est-ce qu'on fait des intérimaires qui voudraient bosser? Donc là, quelqu'un avait lancé un coup de baramine. Mais aussi sous l'angle de pour qu'ils bénéficient des retombées positives du mouvement, si c'est positif. Donc là, l'idée, c'était on se battra jusqu'au bout pour tout le monde. Résultat des courses. Donc le lundi, le travail reprend. La journée a été officiellement déclarée en intempérie. Mais il y a derrière une myriade d'employeurs qui vont à leur tour reprendre à leur compte ou pas le fait que la journée a été déclarée en intempérie. Pour dire les choses clairement, une bonne partie des intérimaires n'ont pas vu leur journée payée, n'ont pas eu d'indemnité d'intempérie. Donc pour la journée du vendredi, c'était zéro. 15 jours plus tard, on a une grève d'intérimaires qualifiés, uniquement des coffreurs, donc une dizaine de coffreurs qui se mettent en grève tout seuls. Le reste du chantier continue à tourner, ils sont tout seuls. On considère que c'est leur affaire avec leur agence d'intérim qui ne leur a pas payé leurs indemnités d'intempérie. Et donc, au bout d'une demi-journée de grève, ils obtiennent effectivement leurs indemnités. Et à côté de ça, il y a tout un tas d'intérimaires, ferrailleurs, manœuvres, qui eux n'ont jamais eu leurs indemnités d'intempérie. Alors, on peut dire, les délégués du personnel de GTM notamment n'ont pas fait leur boulot, ne sont pas allés vérifier si c'était payé. Je pense qu'effectivement, ils n'ont pas cherché tout simplement à savoir, ou ils n'ont même pas considéré que c'était de leur ressort de syndicalisme, parce que ça reste circonscrit à GTM. Il reste que de toute façon, juridiquement, ils n'auraient pas le droit d'aller vérifier que les indemnités d'intempéries ont bien été payées. Donc là, on commence à buter sur la question de la sous-traitance et de l'intérim, dès lors qu'on creuse un petit peu sur cette question de la sécurité et dès lors qu'on commence à se demander comment lever cette domination, ce monopole de la gestion de la sécurité revendiqué par les directions de chantier, comment faire en sorte que les ouvriers puissent reprendre en main leur propre sécurité, leur propre manière de faire, réfléchir, imposer aussi leurs règles de sécurité, ben ça bute en définitive aussi sur la sous-traitance et l'intérim, donc sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors, sur l'ethnicisation de la main-d'œuvre, rapidement, ce qu'on pouvait observer, et je dis là vraiment au passé, parce que je pense que les choses ont pas mal changé sur les chantiers de Paris, et puis d'ailleurs, de toute façon, c'était déjà différent, mais ce qu'on pouvait observer sur un chantier de grosses œuvres à Paris au début des années 2000, c'est des conducteurs de travaux français nés en France et pour la plupart blancs. Des chefs de chantier donc, qui eux sont issus du rang ouvrier, contrairement aux conducteurs de travaux qui sont de moins en moins autodidactes et de plus en plus des ingénieurs qui sont en début de carrière, tandis que les chefs de chantier sont plutôt des anciens ouvriers en fin de carrière, donc eux sont embauchés dans l'entreprise générale, GTM, Vinci, Bouygues, et qui sont assez souvent des immigrés européens, portugais, espagnols, italiens. Les chefs d'équipe de l'entreprise générale, qui sont eux plutôt des immigrés portugais, hein, la plupart du temps, Ensuite, des ouvriers qualifiés de l'entreprise générale, quand il y en a, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de chantiers où il n'y a même plus d'ouvriers de l'entreprise générale, qui seront plutôt portugais et immigrés portugais et maghrébins. Ensuite, les intérimaires coffreurs, qui vont peut-être être un peu plus maghrébins, mais toujours très portugais. Puis les manœuvres intérimaires, qui à l'époque étaient vraiment à 95% des immigrés ouest-africains du Mali et du Sénégal, principalement, de Mauritanie un petit peu. Et du côté des ferrailleurs, donc opération sous-traitée avec principalement des intérimaires, majoritairement des immigrés maghrébins arrivés récemment, les sans-papiers se concentrant a priori, à l'époque ça ne se disait pas facilement, se concentrant a priori dans les métiers du ferraillage et chez les manœuvres. Donc on a une espèce de dégradé qui est à la fois hiérarchique d'un point de vue professionnel et qui en même temps qui correspond à une espèce de classement ethnique qui ne peut pas s'expliquer uniquement par la succession historique des migrations. D'une part parce que si on regarde les grandes vagues de migration d'un point de vue historique, les Algériens par exemple, enfin c'est une migration antérieure à celle des Portugais, hein, le gros de l'immigration algérienne c'est les années 50, le gros de l'immigration portugaise c'est les années 60, et ensuite parce qu'actuellement encore les flux peuvent continuer, vous avez pas mal d'immigrés portugais par exemple qui continuent d'arriver aujourd'hui encore en France. Alors, quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer, si ce n'est pas seulement un effet mécanique de la succession historique des migrations, quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer ce dégradé ethnico-hiérarchique? Alors, il y a d'abord quelque chose qui n'est pas mis en œuvre par le bâtiment, qui vient d'ailleurs, c'est tout ce qui est les politiques migratoires. C'est toute la hiérarchisation des populations en fonction des nationalités d'origine qui a ensuite une répercussion sur le chantier. Pour le dire vite, les Français depuis 1991, les Européens de l'espace Schengen ont la liberté de circulation d'installation en France, ne voient pas leur existence, leur droit à être là, leur existence légale en France remise en cause. Donc ils ont une certaine stabilité, une certaine solidité sociale, légale, qui fait qu'ils vont accéder plus facilement aux postes les plus justement stables, les plus solides, en CDI dans l'entreprise générale du bâtiment. Tandis que les nationalités qui vont être davantage confrontées à des titres de séjour précaires, voire à des difficultés particulièrement grandes pour obtenir des titres de séjour, donc grosso modo des gens qui vont se retrouver sans papier, bah, ceux-là vont se retrouver forcément dans les franges les plus périphériques et les plus précaires de l'organisation du travail du bâtiment. Ce qui explique donc notamment qu'on retrouve principalement des Maghrébins et des Ouest-Africains, ça pourrait être d'autres nationalités, mais des Maghrébins et des Ouest-Africains dans le métier du ferraillage et chez les manœuvres. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le recrutement, enfin ce qu'on appelle le recrutement par cooptation. Le fait que très souvent dans le bâtiment, ça se vérifie dans d'autres secteurs, hein, c'est pas la question, mais on va faire recruter un neveu, un cousin, un fils, un frère, etc. Et c'est pas seulement une initiative des salariés pour faire entrer des gens de leur famille, c'est aussi une volonté, une politique d'entreprise de la part des employeurs, de tous les types d'employeurs, ça va de l'agence d'intérim jusqu'à Bouygues, et de manière très officielle, hein, qui vont favoriser le recrutement de proches. D'une part, parce que ça fait une économie sur la recherche de personnel, on passe pas par Pôle emploi, on ne met pas une annonce, etc. D'autre part, parce que ça permet de fiabiliser un peu la personne qui est recrutée. Moralement, on pourrait dire que on engage deux personnes pour le prix d'une. Voilà. Si je fais embaucher mon fils, s'il fait des conneries, je sais que ça va un peu se retourner contre moi. Donc j'ai intérêt à faire attention. Donc c'est l'objectif est bien des entreprises est bien de faire une économie sur le coût et de fiabiliser les salariés. L'impact, évidemment, d'un point de vue, même si ça n'a pas une vocation discriminatoire en tant que telle, l'impact, c'est que le fils d'un Portugais, étant souvent d'origine portugaise lui-même, du coup, ça renforce les groupes qui sont déjà implantés dans un métier, et puis ça défavorise les groupes qui n'ont pas réussi encore à s'implanter. où ça, enfin voilà, ça renforce donc les spécialisations professionnelles qui deviennent aussi du coup des spécialisations ethniques. Et puis le troisième mécanisme, plus direct, c'est le racisme, c'est une gestion discriminatoire de la main-d'œuvre qui n'est pas forcément mise en œuvre par tous les employeurs du bâtiment, mais qui est mise en œuvre par un nombre suffisamment significatif d'employeurs du bâtiment pour que ça vienne renforcer les tendances que j'ai décrites. En l'occurrence, au début des années 2000, dans le bâtiment, il y avait un certain nombre d'images qui circulaient parmi les commerciaux d'intérim, où on avait les Portugais qui étaient les rois du bâtiment, eux ils sont vraiment tip-top, les Algériens qui sont plutôt ferrailleurs mais qui sont assez revendicatifs et vindicatifs, et puis les Maliens ou les Boubous, ou les Mamadou comme on les appelle aussi souvent, qui eux sont particulièrement dociles, mais il ne faut pas leur demander plus que le marteau-piqueur. Je subodore que l'image des Maliens a beaucoup changé depuis les grèves de travailleurs sans papier. Puisque la dernière fois qu'un commercial d'intérim m'en a parlé, il disait pas les boubous, il disait les enculés. Ce qui ne manifeste pas forcément un respect plus grand, mais au moins un début de crainte.
Sympa.
Et dans cette gestion, donc. Ça s'observe, ça se voit, et puis tout simplement, je suis allé interviewer des commerciaux d'intérim, donc ils vous décrivent leur gestion, ils vous disent, voilà, les Maliens, ils sont comme ci, les Algériens, ils sont comme ça, voire, vous voyez, la semaine dernière, j'ai pris un Péruvien, je ne connaissais pas cette race, et ben c'est une très bonne race, je suis très content. Bon, c'est le cas le plus exagéré, mais c'est une manière de penser que même quand on ne la partage pas, on est obligé de la connaître et éventuellement d'y répondre. Si on a une entreprise qui nous fait une demande discriminatoire, et ben on est là pour lui vendre ce que l'entreprise demande. Donc éventuellement, comme agence d'intérim, on va l'appliquer. La difficulté de repérage et même d'attaque de ces discriminations, c'est que le cadre juridique de la discrimination, c'est de dire à travail égal, salaire égal, et si à travail égal, on n'a pas un salaire égal, et ben c'est de la discrimination, c'est mal et ça peut être attaqué. Ce problème, c'est que à travers cette profusion d'employeurs, sous-traitance, intérim, toutes les différences de qualification qui se mélangent à ces différences de statut d'emploi, il est à peu près impossible de tenir un fichier où on vérifierait que deux personnes à travail égal ont des salaires inégaux. D'une part, parce que les informations sont dispersées entre des dizaines et des dizaines d'employeurs différents. Donc, pour faire un fichier, ce serait d'une part, déjà, ce serait compliqué. Simplement, le fait d'avoir un fichier avec les noms des gens, leur statut, leur qualification, leur salaire, etc. Et puis, de toute façon, les choses sont tellement incomparables, puisque les entreprises n'ont pas le même gabarit, les mêmes obligations juridiques, ce n'est pas les mêmes métiers, qu'il devient à peu près impossible d'accuser, d'un point de vue juridique, selon la définition juridique, de mettre en cause des discriminations. Puisque l'analyse de la discrimination, l'analyse juridique, qui de ce point de vue-là rejoint l'analyse économique, c'est une discrimination toute chose égale par ailleurs, comme on dit. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout égalisé, on fait comme si tout le monde avait les mêmes métiers, tout le monde avait les mêmes entreprises, tout le monde avait les mêmes statuts d'emploi, et à ce moment-là, on regarde s'il reste un écart qui, du coup, serait imputable à de la discrimination. Seul problème, c'est que quand on regarde le bâtiment, toutes les choses sont inégales par ailleurs. Les gens n'ont pas les mêmes entreprises, pas les mêmes emplois, pas les mêmes métiers, pas les mêmes qualifications. Donc, il faut aussi bien sur la question de ces discriminations que sur la question de la sécurité, on en arrive, on bute en dernière analyse sur l'organisation productive, sur le développement d'employeurs intermédiaires à travers la sous-traitance et l'intérim. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur l'ampleur de ce phénomène, parce que je pense que vous avez une vision plus actualisée que moi là-dessus. Je peux donner l'exemple d'un chantier sur lequel j'avais bossé et qui ressemble à plein d'autres. Chantier de GTM, quand je suis arrivé, il y avait 120 ouvriers qui travaillaient rien qu'aux gros œuvres, hein, je ne parle pas du second œuvre qui de toute façon était entièrement sous-traité. Sur le gros œuvre, donc il y avait 120 ouvriers qui travaillaient directement sous les ordres de GTM, des cadres de GTM. Il y en avait sur ces 120, 40 qui dépendaient directement de GTM, dont 15 étaient effectivement salariés de GTM, donc chef d'équipe compris, et puis une poignée d'ouvriers, et 25 qui étaient intérimaires, mais pas employés par une seule agence d'intérim, employés par 4 ou 5 agences d'intérim différentes. Ensuite, on avait trois sous-traitants. J'ai pas pu enquêter sur tous, mais l'un des sous-traitants, sous-traitant en ferraillage, comme toutes les boîtes de ferraillage, avait 75% de sa main-d'œuvre constituée d'intérimaires, et là encore en recourant à quatre ou cinq agences d'intérim différentes. Donc on peut avoir pour une centaine de bonhommes, 20, très facilement 20 employeurs différents. Bien sûr, derrière, il y a GTM, il y a Vinci, ou sur d'autres chantiers, il y a Bouygues, qui est l'employeur le plus puissant, qui est de moins en moins employeur, mais qui reste l'entreprise puissante qui dirige et coordonne tout ça. Alors, ce mouvement de sous-traitance, il s'est particulièrement développé à partir des années 1970. Je ne détaille pas ici les raisons pour lesquelles ça s'est développé. Les deux raisons pour lesquelles on sous-traite. Deux principales raisons m'ont été données par exemple par un directeur des ressources humaines en entretien. La première raison, dit-il, c'est une variable d'ajustement de main-d'œuvre. En ajoutant, je cite, on a un métier qui est lié à la conjoncture, on ne veut pas prendre le risque de se retrouver à un moment donné avec 100 personnes en trop, un plan social c'est traumatisant. Donc plutôt que d'avoir un plan social, c'est-à-dire de virer des gens de chez soi, on fait en sorte que ce soit le sous-traitant qui vire les gens de chez lui. Donc, du point de vue de l'entreprise qui sous-traite, l'idée est bien de se passer du contrat de travail. Parce que le contrat de travail, au terme d'un siècle et demi de lutte sociale, il y a un certain nombre de sécurités qui ont été construites autour de lui. Il y a un certain nombre de garanties. C'est un contrat de travail qui, au 19e siècle, était comme tous les autres contrats commerciaux. Et s'il y a un droit du travail spécifique qui s'est distingué du droit commercial habituel, c'est bien parce qu'il y a eu des luttes qui ont fait que ça a été un droit, c'est devenu un droit spécial avec quand même, malgré tout, un certain nombre de garanties. Un certain nombre de limites au pouvoir de commandement du patron. Donc, pour ces entreprises, le fait de sous-traiter, c'est substituer au contrat de travail des contrats commerciaux, des contrats d'entreprise. C'est une entreprise qui traite avec une entreprise et non plus un patron qui traite avec un salarié et qui donc est tenu par un certain nombre d'obligations autour du contrat de travail. Ce n'est plus qu'une entreprise qui traite avec d'autres entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il y a une suppression des contrats de travail. Il y a toujours des contrats de travail, mais entre l'entreprise intermédiaire et les salariés. Éventuellement, l'entreprise intermédiaire, elle a une autre entreprise sous-traitante, et puis c'est cette entreprise sous-traitante qui va gérer les contrats de travail. Ça ne remet pas en cause le modèle. C'est toujours l'idée d'externaliser la gestion des contrats de travail. Et si on externalise la gestion des contrats de travail, c'est donc pour se débarrasser de toutes ces garanties, et aussi, dit le DRH, parce que ça permet de diminuer les coûts. Je le cite, finalement, en sous-traitant, on gagne mieux sa vie qu'en faisant soi-même, et notamment en sous-traitant des choses relativement simples. Alors je pose la question, comment vous expliquez que des entreprises arrivent à faire moins cher que vous? Je dirais que le métier de ferrailleur, c'était sur le ferraillage, est pas très compliqué. Donc, c'est des gens qui sont payés à bas prix, enfin au SMIC. Et puis, dans les PME, ils ne sont pas non plus aux 35 heures. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'ils sont plus compétitifs que si on les employait. Bon, ça reste assez euphémisé. Ce qu'il y a derrière, c'est que on va externaliser, à travers l'externalisation, on externalise la gestion des contrats de travail et on va externaliser un certain nombre d'illégalités qui vont avec. Alors, on externalise, enfin, il y a aussi d'autres avantages. Par exemple, le fait que des petites et moyennes entreprises, contrairement à Bouygues, vont être moins embêtées par des syndicats, ne vont pas avoir l'obligation d'avoir un certain nombre d'institutions représentatives du personnel, des comités d'entreprise, des comités d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail. J'avais interviewé un patron d'entreprise de ferraillage qui prenait toujours bien soin de ne jamais dépasser la limite fatidique des 50 salariés. Moyennant quoi, il avait 200 personnes qui travaillaient pour lui parce que tout le reste était en intérim. Mais ça lui permettait d'éviter la perspective d'un comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail, par exemple. Donc il y a ça, esquiver un certain nombre d'obligations légales. Profiter aussi, j'en parle pas ici, mais on pourra peut-être en discuter après, de manière tout à fait légale des dispositifs de ce qu'on appelle de détachement, de prestation de services internationales. Donc on avait parlé en 2005 pas mal avec la directive Bolkestein et le plombier polonais. Le problème du plombier polonais à l'époque, c'est pas le fait d'être payé au prix d'origine, puisque ça n'était pas vraiment le cas, c'est surtout le fait qu'il n'avait... que le plombier polonais en tant que tel n'avait pas la liberté de circulation et d'installation, et que donc il avait juste la liberté d'obéir à son patron qu'il avait déplacé en France. Et que sorti de ça, dès lors qu'il se fâchait avec son patron ou qu'il était démissionné par son patron, il n'avait plus le droit de travailler en France. Donc il était beaucoup plus captif de son employeur donc le problème, c'est bien le problème du détachement, du cadre juridique du détachement, mais là j'ai été un petit peu vite, si vous voulez qu'on développe tout à l'heure, on le fera. Ce que je voulais dire, c'est... avec la sous-traitance, avec l'intérim, on externalise des illégalités. Et alors, on externalise par exemple des illégalités sur le contrat. Je ne sais pas comment ça marche ici à Lyon, mais à Paris, au début des années 2000, dans l'intérim, on ne signait jamais de contrat. Ou alors on signait un contrat pour à la fin de la mission, pour la mission écoulée. Ou alors on signait le contrat à la fin de semaine pour la semaine écoulée. Alors que le cadre juridique, c'est le même cadre que le CDD, on doit signer le contrat dans les 2 jours du début de la mission. Et le contrat de l'intérim, c'est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire que on doit savoir quand est-ce qu'on va finir. On en pense qu'on veut, on pense que c'est de la précarisation, etc. Mais n'empêche qu'il y a une espèce de certitude, on sait quand est-ce qu'on va finir. En réalité, là, avec le fait de ne pas signer le contrat ou de le signer en fin de mission pour la mission écoulée, on revient à du contrat à durée indéterminée, avec simplement la perspective de pouvoir se virer, faire virer du jour au lendemain. Et ça ne manque pas d'arriver. Il y a tout un tas de, voilà, en fonction des besoins, on vire les gens du jour au lendemain. Pas besoin d'anticiper, pas besoin de mettre un truc à durée déterminée. Pourquoi s'embêter alors qu'on peut virer les gens au moment où on a besoin de virer les gens sans avoir eu à prévoir au départ. Mais il y a aussi des gens qui travaillent depuis des années avec le même patron, avec la même entreprise, avec le même chef de chantier, tout en étant sous ce statut de précarité à durée indéterminée où on peut être viré du jour au lendemain. Donc là, c'est même pas un instrument de flexibilité, de variable d'ajustement de la main-d'œuvre, c'est juste un instrument de discipline. Instrument de faire en sorte qu'on te rappelle que tu peux être viré du jour au lendemain, même si tant que tu râles pas, il n'y a pas de souci, tu seras là au prochain chantier. Mais ça, pour l'instant, et tant que le contrat première embauche ou le contrat nouvelle embauche ne ressortent pas de manière avec succès, ça reste illégal. Donc on externalise aux agences d'intérim cette illégalité. Une autre illégalité massive qu'on externalise par le biais de l'intérim, c'est le fait d'employer des sans-papiers. Quand Bouygues vous dit je n'embauche pas de sans-papiers, ou si jamais on trouve un sans-papier chez Bouygues, il dit je savais pas, j'ai été abusé. On peut le croire. On peut tout à fait le croire, le fait qu'il a été abusé par les faux papiers, etc. Parce que si les chefs de Bouygues avaient su que le gars était effectivement sans papier, il n'aurait pas forcément arrêté de travailler sur des chantiers de Bouygues, mais il aurait travaillé par le biais de l'intérim. Il y a complètement, là, c'était complètement organisé, une externalisation de l'usage des sans-papiers, avec du coup une délégation du risque judiciaire qui va avec, parce que la mise en cause du donneur d'ordre ne marche quasiment pas. Alors, je voulais conclure là-dessus sur justement ce qui a pu changer, ou en tout cas ce qui a commencé à changer avec les grèves de travailleurs sans papier, et en particulier de l'intérim du bâtiment à Paris. Je ne vais pas faire ici une histoire des grèves de travailleurs sans papier, donc il y en a une là-bas dans le deuxième livre. Mais grosso modo, le 15 avril 2008, il y a 300 travailleurs sans papier qui se mettent en grève en région parisienne. Pendant tout le printemps, ça, puis après ça va monter, pendant tout le printemps 2008, il y a 1500 travailleurs sans papier qui se mettent en grève. Principalement dans le nettoyage et dans la restauration. Et quasiment rien dans le bâtiment. Et pourtant, c'est pas comme s'il n'y avait pas de travailleurs sans papier dans le bâtiment. C'est ce que je vous disais. Pourquoi ça? Parce que la stratégie syndicale, donc à l'époque, il y a CGT, Sud et CNT sur Paris. Avec au sein de chacune des organisations, je dis bien chacune, de gros débats. Donc le choix des organisations syndicales est de faire ressortir le fait que ce sont des travailleurs, que les sans-papiers sont des travailleurs. Et donc pour faire en sorte qu'on arrive à prouver de manière incontestable que ce sont des travailleurs, on essaye de prendre les travailleurs qui répondent aux standards les plus classiques du salariat. Donc des gens qui sont à temps plein, des gens qui sont déclarés, des gens qui sont en CDI et des gens qui travaillent directement pour leur patron. De telle sorte que le jour où, par exemple, les salariés de chez Papa, c'était un restaurant qui avait été assez médiatisé, quand ils se sont mis en grève, enfin, c'était dans les premiers grévistes, le jour où ils se mettent en grève, ils déposent leur toque, ils occupent le restaurant en disant « ça fait des années que vous nous employez, maintenant il faut nous aider à nous faire régulariser », le jour où ils font ça, le patron ne peut pas dire, mais je ne vous connais pas, vous n'êtes pas chez moi. Enfin, ils étaient dans sa cuisine, ils sont employés directement par lui. Il ne peut pas faire ça. En revanche, du coup, dans le bâtiment, comme c'est surtout l'intérim qui fournit des sans-papiers, il n'est pas possible pour les sans-papiers à ce moment-là du bâtiment de rentrer dans la grève. Malgré tout, ça va commencer à être lancé à partir de l'été 2008, les premières grèves, et elles sont très très dures, elles durent plus de 6 mois, dans l'intérim du bâtiment. Elles débouchent sur un certain nombre de régularisations, mais c'est très très compliqué et ça ne dit rien pour l'avenir. Enfin, l'État, les préfectures ne s'engagent à rien pour l'avenir. Et donc, des organisations syndicales, et là plutôt principalement la CGT et Sud, et surtout la CGT, décident pour l'automne 2009 de relancer une vague de grève qui va intégrer tous les travailleurs sans papier, qui, en tout cas, a pour objectif d'intégrer tous les travailleurs sans papier qui n'avaient pas été intégrés dans la vague précédente, donc qui va comprendre des intérimaires, qui va comprendre des travailleurs au noir, qui va comprendre des travailleurs de petites boîtes qui ne pouvaient pas se mettre en grève tout seuls sur leur site, sur leur lieu de travail, et qui donc, en inventant des nouvelles formes aussi de grève, parce que, bon, là, en l'occurrence, la revendication, c'est des papiers, mais c'est presque anecdotique par rapport, enfin, c'est pas anecdotique, mais avec ou sans papier, c'est la première grève massive et coordonnée de travailleurs de PME, de travailleurs de sous-traitance et de travailleurs de l'intérim. Ça monte jusqu'à 6 800 grévistes, dont aux alentours de 2 000 dans l'intérim du bâtiment. Alors, il y a plusieurs phases. Je vous les décris un petit peu pour vous donner des idées, voilà, des modes d'action et de comment ça s'est passé. La première phase, 12 octobre 2009, c'est d'occuper des agences d'intérim, n'importe lesquelles. Et d'ailleurs, les premières agences d'intérim qui sont occupées, c'est vers Saint-Lazare, c'est plutôt des agences d'intérim de cadre. Bon. Mais c'est des agences d'intérim Synergie, Adecco, qui appartiennent à des enseignes qui, par ailleurs, font travailler des travailleurs sans papier par le biais d'autres agences. Mais l'idée, c'est de cibler l'intérim en tant que tel. Quelle est l'idée derrière ça? Bon, à part le fait de faire un truc spectaculaire, en même temps, il y a des occupations de fédérations patronales, la Fédération nationale des travaux publics, plus tard, il y aura la Fédération française du bâtiment, il y a un fonds d'organismes paritaires de la restauration et l'hôtellerie. Mais l'idée, c'est quand même de dire, les intérimaires, ils travaillent un jour pour une intérim, un jour pour une autre, un jour pour Vinci, un jour pour Bouygues, etc. Ils ne peuvent pas faire une demande de régularisation à tel ou tel, parce qu'ils ont travaillé, ils ont plus un employeur collectif, ils ont plus été exploités par un employeur collectif que par un employeur individuel bien identifié. Or, le problème, c'est que le droit du travail ne reconnaît qu'un employeur individuel bien identifié dès lors qu'on a une quelconque revendication ou qu'on veut lui faire remplir un certain nombre d'obligations. Ces occupations vont durer quelques semaines d'agences d'intérim, de synergie, etc. Non, quelques semaines, 12 jours plus tard, il y a la première évacuation, décidée par un tribunal. Autant quand, par exemple, les salariés de chez Papa occupaient chez Papa, bah, lui, il pouvait bien aller au tribunal, le tribunal disait, bah ouais, mais c'est des salariés de chez vous, ils vous occupent. Autant là, sur l'intérim, les tribunaux vont toujours dire, bah non, écoutez, c'est pas l'agence pour laquelle vous avez bossé, donc ça vaut pas. Et si vous dites que vous êtes gréviste, mais pour être gréviste, il faut travailler. Là, vous étiez entre deux missions, vous n'étiez pas en train de travailler, vous étiez un chômeur, vous n'étiez pas un gréviste. Bon. Et donc, voilà, tout un tas de raisons accumulées qui vont à chaque fois justifier les évacuations de grévistes. Donc, il va y avoir d'abord une espèce de course-poursuite où, à chaque fois qu'ils vont être évacués d'une agence, ils vont aller occuper d'une autre jusqu'à ce qu'ils soient évacués. Ils vont dans une autre. C'est parti jusqu'à, comme ça est parti, ça avait parti de Saint-Lazare, puis après, c'est parti comme ça en cercle concentrique jusqu'à Creil au nord et Orléans au sud. Avant que la stratégie revienne plutôt à des occupations ponctuelles, enfin répétées, plutôt une espèce de harcèlement, mais où on reste une demi-journée dans la boîte et on dit on reviendra. Moyennant quoi, si vous baladiez dans le secteur des agences d'intérim du bâtiment vers la gare du Nord, gare de l'Est à Paris à cette période-là, au printemps 2010, vous voyez les trois quarts des agences fermées pour raisons administratives, était-il écrit, mais voilà, pour pas se faire occuper. Ça leur posait un grave problème, parce que les agences d'intérim, leur fonctionnement repose sur le passage des gens, sur le fait qu'il y a des candidats qui se présentent et qui peuvent ensuite envoyer. Donc ça a posé concrètement problème, ces tactiques de harcèlement. Donc, voilà, il y a des nouveaux modes d'action qui se sont mis en place, qui peuvent être intéressants, avec en même temps la perspective que pour l'instant, juridiquement, ce n'est pas tellement reconnu, sauf, et je finis là-dessus, et partout où je passe, j'essaye de faire connaître cette décision de justice pour que voilà, ça puisse être une brèche dans laquelle d'autres gens puissent s'engouffrer. La première évacuation, je l'ai dit, c'était une agence Synergie le 24 octobre 2009. La Cour d'appel de Paris, enfin, donc les syndicats font appel, la Cour d'appel de Paris le 12 avril 2010 dit en fait finalement l'occupation elle était licite. Et notamment les gens, donc d'une part on peut occuper une agence d'une enseigne pour laquelle on a travaillé, même si ce n'est pas directement pour cette agence qu'on a travaillé. Et d'autre part, même si on est, ça c'est très très intéressant, même si on était entre deux missions, Et donc, d'un point de vue du droit du travail, juste chômeur et pas fondé à faire grève, puisque la grève, c'est une suspension du contrat de travail, même si on est entre deux missions, à partir du moment où on a travaillé régulièrement pour la boîte, on peut être considéré comme, je cite, un travailleur intérimaire habituel. Et donc, on est fondé à l'occuper, faire grève, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, à faire usage de son droit de grève, et l'occupation n'est qu'une espèce d'extension de ce droit, et donc d'occuper l'entreprise et de dire on a des revendications vis-à-vis d'elle, bien que formellement on ne soit plus en contrat. Donc là, ça. Si on pousse la brèche, enfin pour aussi les mouvements de chômeurs, pour les mouvements d'intérimaires, mais aussi pour les mouvements de chômeurs, etc., derrière cette brèche, il y a une extension des droits attachés au contrat de travail, une extension de la notion de salarié qui, à mon avis, il faut pousser si possible. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Des occupations, pas des blocages. Parce
Non.
que là, du coup, ils auraient rendu la grève dans le sens où
Ouais.
ils empêcheraient le travail des autres.
Ouais.
Ce qu'ils appellent la liberté.
Voilà, tout à fait. C'était alors avec c'était l'argumentaire des agents intérim devant les tribunaux, c'était de dire ok, ils bloquent pas, mais enfin ils sont à 80 dans une agence qui est minuscule, on a juste un comptoir, etc. Les intérimaires peuvent pas passer, peuvent pas venir chercher leur chèque, et pas mal de tribunaux ont retenu ça effectivement comme une entrave injustifiée à l'activité, enfin disproportionnée à l'activité économique de ces boîtes.
Aujourd'hui, le patronat de ces entreprises ou alors de ces agences d'intérim, ils ont commencé à travailler des ripostes à ça, parce que bon là, c'était plus ou moins quand même la première fois, il y avait déjà eu un mouvement des sans-papiers un peu avant, mais c'est la première fois qu'ils prenaient cette ampleur, avec en plus le fameux jeu du chat et de la souris à travers Paris, dans les différentes agences. Et peut-être qu'au début, ils ont peut-être prévu le coup quand même, est-ce qu'ils ont déjà commencé établir un riposte? Ou alors c'est que le mouvement est mort de sa belle mort,
Ben,
mais.
y a plusieurs éléments de réponse et je suis un peu embarrassé parce que c'est pas un patronat très causant. Enfin, les commerciaux d'intérim, si, mais après leur représentant, le PRISM, donc la fédération patronale rattachée au MEDEF, pas tellement. D'après des échos qu'on avait de la part plutôt de gens du ministère de l'Immigration, le PRISM fait partie à cause de ce harcèlement et parce que c'était le secteur le plus organisé de la grève et le plus agressif à l'égard des employeurs du secteur concerné. Le PRISM aurait fait pression sur le ministère de l'Immigration pour trouver une solution. En même temps, je pense, là j'ai pas énormément d'éléments pour l'établir, je pense que même si Adecco, Manpower, Randstad, les gros du secteur ont eu recours, tout autant que les autres, à des travailleurs sans papier. Ils ont dû voir aussi là l'occasion de se débarrasser d'une partie de leur concurrence. Concurrence plus fragile, plus dépendante des travailleurs sans papier pour leur chiffre d'affaires. Manpower, par exemple, ils se sont fait occuper une agence. Elle a été occupée 2 ans et ils l'ont simplement abandonnée. Ils ont déplacé l'activité dans une autre agence. Ils ont fait. Ah, c'est l'intérêt de pouvoir faire des économies d'échelle quand on a une grosse agence. Donc voilà, la grève, elle s'est enlisée dans un local qui, de toute façon, qui devenait une espèce de squat parce que Manpower avait déplacé ses activités. Enfin, arrêter de l'intérim, c'est quand même quelque chose de pas évident. À la limite, en intérim, on le fait avec un téléphone. Donc ça n'est que vendre de la force de travail, donc du vent, puisque c'est la promesse de quelqu'un d'aller travailler. Après, c'est ce qu'il faudrait, par exemple, pouvoir, c'est occuper des chantiers. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais l'occupation de lieux de travail par des travailleurs du bâtiment, de chantier concrètement, a toujours été impossible. En plus, la stratégie a été de cibler Bouygues. Enfin, je ne sais pas si ça aurait été moins vite sur d'autres chantiers, mais en 2-3 heures. Et sans même décision de justice, c'était une évacuation policière.
Il y a eu la séquence de la Tour-Perse à la Défense,
Voilà.
notamment, et je crois qu'effectivement, il n'y avait même pas l'autorisation de justice.
Non.
Parce que l'astuce, elle est là, parce que souvent, au bout d'un moment, l'occupation va être déclarée illégale. Ça arrive souvent, mais le temps qu'il y ait une décision de justice, eh ben, ça permet de faire pression. Et là, on a vu justement avec l'occupation de la Tour-Perse, il semble bien qu'il n'y avait pas eu de décision de justice et qu'il y avait eu une pression militaire par. Parce qu'à ce moment-là, et sans mandat, en fait.
Voilà. Et alors je sais pas là exactement quelle a été la stratégie des. Bon, syndicats sont pas forcément toujours habitués aussi, hein, pas toujours envie d'aller au tribunal, enfin, voilà, mais autant par exemple quand au restaurant La Tour d'Argent, il y avait une évacuation musclée de la part d'agents de sécurité de La Tour d'Argent, des grévistes, au lendemain de la signature d'un protocole d'accord à 6 h du matin, ils les ont dégagés. La CGT a demandé au tribunal la réintégration de l'occupation, ce qui est quand même un truc assez bizarre, et ils l'ont obtenu, enfin, avec une négociation, c'est-à-dire qu'ils ont occupé un autre local de la Tour d'Argent, mais juste en face. Donc, ils ont. Autant là, je pense que du fait que, même si les gars avaient travaillé sur la Tour First, enfin, une partie des occupants avaient travaillé sur la Tour First, comme c'était des intérimaires du sous-traitant en démolition et que la partie démolition était finie, ils n'auraient jamais gagné le fait d'avoir le droit d'occuper la tour. Donc voilà, je pense que de l'autre côté, ils ont fait le calcul aussi là-dessus. On les évacue sans décision de justice d'un côté, mais sachant qu'ils ne peuvent pas obtenir le droit de revenir. Donc, pour répondre à la question, il y a ça. Donc le prisme a sans doute fait pression pour qu'il y ait une solution de trouver, mais il n'y a pas vraiment de solution qui a été trouvée. Enfin, c'est un mouvement qui s'est enlisé avec des victoires très très relatives. Sans doute l'image des travailleurs maliens, sénégalais, etc., puisque c'était essentiellement eux, s'est détériorée dans les agences d'intérim. On a l'exemple d'un truc qu'on rapporte dans le livre, qu'on a filmé aussi, qu'on va sortir en film, où on voit le commercial d'intérim qui dit tu sais ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre des Brésiliens, ils sont moins chiants que vous. Et puis en plus, les Brésiliens, ils ont des. Ils peuvent se faire passer pour portugais, donc ça permet de contourner les contrôles. Enfin, s'ils ont des fausses cartes d'identité portugaise, ils peuvent plus facilement contourner les contrôles mis en place depuis quelques années. Il y a ça, et puis là, c'est pas une réplique plutôt des agences d'intérim, c'est plutôt une réplique des entreprises qui, du coup, vont décider de se passer progressivement des agences d'intérim. C'est la prestation de services internationales, ce dont je parlais tout à l'heure. Ce qui se voyait même avant les grèves, hein, par exemple dans le secteur du ferraillage, je pense que enfin, c'était pas tendu aux grèves qu'à des questions de coûts traditionnellement, même du détachement de Polonais est moins cher que du sans-papier local, on va dire. Et puis des questions de contrôle de police de plus en plus importants sur les chantiers avaient poussé des entreprises de ferraillage à arrêter, enfin, ou à ralentir sur le sans-papier intérimaire, grosso modo, pour prendre du détaché polonais. Sachant que, bon, à l'époque, les Polonais n'avaient pas la liberté, leurs entreprises avaient la liberté de circulation, donc pouvaient venir sans contrôle, sans qu'il y ait demande d'autorisation, de contrôle, parce que c'est la liberté des services au sein de l'Union européenne, mais la liberté ne concernait que les entreprises et pas les personnes. Et donc, c'était dans ce décalage entre les deux, ce que je disais tout à l'heure, le Polonais qui est détaché par son entreprise, à partir du moment où il est détaché. C'est pas considéré comme un immigré, c'est juste une espèce de matériau que l'entreprise ramène avec elle. Hein, c'est comme si elle ramenait ses scies ou ses machins. Elle les ramène avec elle, elle ramène son salarié. Et le salarié, dès lors qu'il est démissionné ou qu'il démissionne lui-même de l'entreprise, à ce moment-là, il redevient soudainement, au regard du droit du travail, il redevient un immigré, il doit demander une autorisation de travail, un truc comme ça. Bon, c'était ça à l'époque, maintenant les Portugais ont la liberté de circulation, d'installation et de travail. Mais maintenant, ce sont les Roumains et les Bulgares qui se retrouvent dans cette situation intermédiaire. Et puis, ça peut encore venir de plus loin. Dans l'agriculture, dans les Bouches-du-Rhône, on voit des Équatoriens détachés par des agences d'intérim espagnoles, qui donc ont un droit au séjour. En Espagne, et le droit de travailler ailleurs, mais qui en revanche, donc qui sont réguliers, hein, qui ne sont pas des sans-papiers, mais qui une fois détachés en France par les agences espagnoles, se retrouvent complètement captifs de leur employeur, puisqu'ils n'ont absolument, en dehors de ce détachement, ils n'ont pas le droit au séjour et au travail en France. Donc voilà, il y a des formes à la faveur du développement d'un côté de la libéralisation des services et des entreprises, et de l'autre des restrictions à la liberté des personnes, il y a des formes d'asymétrie qui permettent d'avoir une main-d'œuvre captive de manière plus légale et à peu près aussi efficace, semble-t-il, que quand on utilise des sans-papiers. Donc voilà aussi les stratégies alternatives qui sont mises en avant.